Hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Du 26 octobre au 11 novembre, le Festival du Monde Arabe de Montréal présente ses moments majeurs. La nouvelle création Koudout Flamenco, un grand hommage à la diva Warda, le Gnawa revisité par Trio Nomadsland, un flashback musical inspiré de la mémoire musicale de Beyrouth, des chants berbères antiques par Sheikh Sidi Bémol, en plus de 60 concerts, spectacles gratuits, débats, conférences et films. Informations et billetterie, festivalarabe.com.
Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca.
Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Choc.ca.
Put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff, c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dealers sont mieux de prendre leur trottin.
Et c'est inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, sir. What's your name?
Murphy.
Je suis inordi!
Put a spell on you. Because you're mad.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 7e Anticarre, votre émission de cinéma aux proportions cosmiques. Mon nom est Jean-Michel Bertion et aujourd'hui... Enfin, une promesse à moi-même, une promesse à vous, une promesse à tous, puisque je vous aime d'un si grand amour, mais aussi un accident, puisque je ne suis incapable de tenir une ligne éditoriale correctement. En fait, je voulais continuer dans ma lignée des premiers films. Je me disais, ah oui, quelle bonne idée, continuons là-dedans. Et allons faire Kids in the Hall Brain Candy cette semaine, parce que c'est le premier film de Kids in the Hall. Malheureusement, c'est pas le premier film de Kelly Makin ou Makin, donc je me suis un peu fourvoyé dans mes arguments. Aujourd'hui, je vous demande de m'excuser, puisqu'on va faire pas le premier film de Kelly Makin, mais le premier film de la célèbre troupe canadienne Kids in the Hall. Et bon, ici, je dois m'excuser, mais en même temps, une excuse un peu faux-fuyante qui servira d'introduction, puisque je le sais bien que la majorité de nos auditeurs proviennent de l'Hexagone, bonjour tout le monde, et que Kids in the Hall n'est pas un nom ultra familier pour vous. Mais n'ayez crainte, puisque je suis là, du fin fond de toute mon affection, pour vous expliquer un peu qui est Kids in the Hall. Parce que une des choses qui est très importante à savoir, c'est que Kids in the Hall, c'est une des pierres fondamentales de mon éducation canadienne. C'est une émission qui m'a suivi, en fait, que je me rappelle d'avoir vu depuis aussi longtemps que j'ai souvenir d'avoir une télévision, et qui, au fil de mes réécoutes, en fait, à chaque fois que je décide de refaire, de me réécouter une saison grand complet, je constate qu'elle est à l'origine de plusieurs de mes obsessions et de mes préoccupations. Et c'est des trucs très fondamentaux dans l'optique que je me rends pas compte que j'ai été exposé à ça de manière très jeune, mais que quand je les réécoute, je fais « Oh my God, c'est très Kitten Hall ». Donc, Kitten Hall est une troupe humoristique qui a été fondée vers... Kitten Hall a été fondée en 1982, mais The Audience, qui est la seconde partie de Kitten Hall qui est venue se forger à Kitten Hall, elle, fondée en 1981. Donc, 1982, on a Dave Foley et Kevin McDonald qui, à Toronto, je crois bien, forment une troupe humoristique qui s'appelle Kitten Hall et plutôt vers l'ouest, on a Bruce McCullough, Mark McKinney et Scott Thompson qui, eux, forment The Audience. Et une fois que ces cinq personnes-là se retrouveront en territoire torontois, ben, reprendront le nom Kitten Hall, malgré que la majorité des composants de ce groupe-là proviennent d'une troupe qui s'appelle The Audience. Donc, 1982 à peu près. Donc, ça fait en sorte que Kitten Hall a exactement le même âge que moi. C'est un 36 ans d'histoire. Et bon, évidemment, quand eux, ça faisait 8 ans qu'ils travaillaient, ben moi, j'avais 8 ans. Quand eux, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble, ben là, j'avais 10 ans. Et à la hauteur de leur popularité, exactement vers les alentours de quand j'avais 8 à 10 ans, ben ils étaient massivement exposés. Et c'est exactement le moment où j'avais besoin de les rencontrer. Et c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Bon, bref. Kids in the Hall, ou les enfants dans le corridor, ou dans le couloir, c'est une double expression. Ça provient initialement, en fait, d'une référence à l'humour de Sid Caesar, qui est un doyen, un grand humoriste classique, qui avait un corridor rempli d'écrivains, des scripts, qui écrivaient des blagues pour lui. Et toutes ces personnes-là, qui habitaient le corridor, tout ce talent-là, étaient les Kids in the Hall. Mais pour moi, n'ayant pas le bagage culturel pour être capable de déchiffrer cette référence-là, Kids in Hall, ça a toujours été les enfants dans le couloir. Les enfants dans le couloir, c'est ceux qui se font sortir de la classe. Je pense pas que je vais surprendre grand monde en disant que j'ai souvent fait partie des Kids in Hall. Et à mon avis, en ayant fréquenté des Kids in Hall et en l'ayant été un peu, ce que je constate, c'est que les Kids in Hall, c'est pas nécessairement les grands fouteurs de troubles. C'est plutôt les jeunes qui dépassent les ressources nécessaires du professeur, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient intellectuelles, ou qu'elles soient aussi contestatrices, anticonformistes, ou vraiment confrontatrices. Ce que je veux dire plutôt, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose de pas correct dans la classe, quand quelqu'un fait quelque chose de moralement répréhensible, où on est capable de vraiment dresser la ligne du manque de comportement et du manque d'éducation, on l'envoie chez le directeur ou dans l'instance punitive existante dans cette institution-là. Mais quand le jeune n'est pas nécessairement une mauvaise personne, mais dépasse les bornes, va trop loin, soit dans sa contestation, soit dans son questionnement, bien on l'envoie dans le corridor. Il n'est pas assez menaçant pour avoir à être surveillé et puni, plutôt. Mais il doit quand même sortir du contexte puisqu'il est en train de déranger la masse. Puis c'est ça le Kids in the Hall. C'est pas quelqu'un qui veut tout brûler. C'est pas quelqu'un qui opère à l'extérieur des sphères morales, sociales, sans le savoir. Non, bien au contraire, c'est des gens qui testent ces limites-là. Et c'est, à mon avis, ce qui fait en sorte que Kids in the Hall est le nom le plus important que l'on pourrait donner à une troupe d'humoristes. Au Québec, on a Rock et Belles Oreilles, qui est très important. On a les cyniques aussi. En Angleterre, clairement, Monty Python. Mais Kids in the Hall, pour moi, est une synthèse parfaite de ce que ces gens-là représentent. Bon, en même temps, avec les années 82, le grand potentiel de leur carrière vers les alentours de 92 à 94, évidemment, vous aurez deviné que Kids in the Hall est un phénomène qui est très près de la génération X. Donc, une génération qui était vraiment dans le sarcasme, évidemment dans la dérision, l'autodérision, la dérision de l'autorité, la dérision de l'importance individuelle, mais qui était quand même une génération, et qui l'est encore à mon avis, très remplie de compassion, extrêmement intelligente et très progressive. ces termes-là, je les sors pas de nulle part. Ça décrit très, très bien qui sont les Kids in the Hall. Et là, je me dis que pour les gens qui n'ont pas du tout familiarité avec Kids in the Hall, vous êtes déjà atterris sur YouTube en train de regarder quelques sketchs. Bon, évidemment, je ne vous empêcherai pas d'aller faire ça parce que ça vaut vivement la peine de s'acclimater et de se familiariser avec cette troupe qui est Kids in the Hall. 5 hommes. Un des trucs que je trouve vraiment intéressant, un des trucs que je trouve absolument fascinant et que suite à l'émission, en préparation à l'émission, notamment à travers le livre « This is a book about Kids in the Hall » de John Semley, on apprend que fondamentalement, Kids in the Hall n'étaient pas des amis. Et John Semley utilise une très grande distinction quand il parle de cette troupe-là, puisqu'il dit « ce ne sont pas des amis, ce sont des frères ». Et la distinction est, à mon avis, très importante parce que des amis, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on pouvait voir avec Monty Python, par exemple, où ces gens-là avaient une vie commune à l'extérieur de leur troupe. Mais chez Monty Python, chez Kids in the Hall, les composants du groupe n'avaient pas une si grande familiarité entre eux, mais travaillaient ensemble. Et en travaillant ensemble, ils travaillaient un peu comme une famille. Puis c'est ici où la symbolique du frère devient importante, puisqu'il y avait cette compétition, il y avait du dépassement, il y avait de la jalousie, il y avait de la confrontation entre les membres. Et ceci est, à mon avis, très important pour comprendre Kids in the Hall. C'était pas simplement une bande de chums qui travaillent ensemble. C'était 5 esprits actifs, très compétitifs, qui étaient continuellement dans une tendance de surpassement. Le truc et la phrase, à mon avis, la citation la plus importante qu'on peut avoir pour décrire les Kids in the Hall, c'est, et je cite, « Individually, we're all smart guys, but collectively, we're really just one dumb guy. » Et je traduis, « Individuellement, nous étions de très intelligents jeunes hommes, mais collectivement, on était juste un grand imbécile. » Qui sont les Kids? Parce qu'ici, encore, le livre est extrêmement important pour comprendre les composantes de ce groupe-là. On commence évidemment avec Dave Foley. Dave Foley, c'est par lui que j'ai eu une plus grande compréhension de cette troupe-là, puisque Dave Foley a joué dans News Radio en 1994, et j'ai été un grand fan de News Radio. C'est via ça que j'ai découvert Phil Hartman, John Lovitz, Andy Dick, et aussi Joe Rogan. Joe Rogan jouait le mécanicien de la station de radio. Et à bien y penser, c'est peut-être via News Radio que j'ai développé une grande affection pour le médium de la radio, ou du moins pour l'environnement dans lequel la radio elle est faite. C'était très curieux comme mise en scène. Dave Foley jouait le directeur de la radio, très straight man. David Foley était vraiment, il est encore en fait, un gars qui joue la placidité de façon très, très, très efficace. Étrangement, né en 1963 à Etobicoke, qui est la municipalité que l'on connaît. En fait, c'est une municipalité en banlieue de Toronto qui a été intégrée quand on a fait la grande ville de Toronto, si on peut dire. Mais c'est aussi le lieu d'origine de Doug Ford et de Rob Ford, les deux maires problématiques de Toronto. C'est un très drôle d'endroit parce qu'il y a une grande diversité ethnique. C'est qu'est-ce qu'on appelle l'étalement urbain. Mais il y a beaucoup de consommation de drogue. Bon, vous avez entendu, évidemment, toute l'histoire de Rob Ford qui fume du crack. Et aussi les grandes disputes entre les conservateurs et la xénophobie, et ainsi de suite. Donc, Dave Foley émerge de ce contexte-là. Un des membres de Kids in the Hall. Kevin McDonald, lui, né en 1961 à Montréal, ici même. Kevin, en fait, ils ont déménagé de Montréal à Los Angeles quand il était jeune. Et ensuite, il est revenu au Canada et il a déménagé à Toronto. Un des trucs qui m'a extrêmement surpris, puisque si vous connaissez Kevin McDonald, ça fonctionne à peine, c'est que Kevin McDonald était, jusqu'à très tard dans la carrière de Kids in the Hall, obèse. Il était 250 livres et plus, et il était considéré comme le gros de la troupe humoristique, parce qu'on sait qu'il y a toujours ces espèces de clichés par rapport à des groupes. Il faut toujours qu'il y ait le petit, il faut qu'il y ait la diversité oblige. Et on se retrouve toujours un peu à, comme Bruno Landry, par exemple, dans Rock et Basse Oreille, qui n'était pas du tout obèse, mais qui était considéré comme le gros de la troupe. Et c'est à travers Kids in the Hall et à travers leur travail que Kevin McDonald a constaté les abus qu'il faisait à son corps en mangeant énormément de gâteaux au chocolat et de buvant beaucoup de lait au chocolat. Et il y a un point dans leur carrière, pendant qu'il était une troupe d'improvisation à Toronto, où il travaillait énormément, puis c'est drôle, ça m'a fait énormément penser au Picbois de l'humour, à monter un spectacle. Eux autres, je crois que c'est un spectacle original à tous les semaines. Les Picbois de l'humour, actuellement, sont plus dans un spectacle original par mois. Mais c'est dans ce contexte de travail acharné et de production incessante de matériel original, un peu comme Maxime Gervais, Don Massy et Julien Bernatchez font ici, qu'ils ont comme eu à un peu retravailler leur style de vie et de faire un peu plus attention à eux-mêmes. Bref, Kevin McDonald est devenu le grand maigre avec les cheveux frisés. Vous connaissez potentiellement plus sa voix puisqu'il a fait beaucoup de voix pour des animations. Il a aussi fait la voix du chercheur scientifique dans Lilo and Stitch, qui est très, 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 très drôle. Puis Kevin McDonald est aussi un humoriste hors pair. Le troisième membre, c'est Bruce McCullough, qui malheureusement, il est né à Edmonton, c'est le petit sportif. Encore aussi une personne qui a des caractéristiques très outsider par rapport à l'environnement de l'humour et par rapport aussi à sa propre position dans la troupe. Il en a parlé énormément dans sa biographie qui s'intitule « Let's Start a Riot, How a Young Drunk Punk Became a Hollywood Dad ». Puis il y a beaucoup de nuances qui est apportée à ce statut-là de punk dans Kids in the Hall, parce qu'on est toujours en train de dire qu'ils ont une attitude très punk, mais pas un style de vie punk. Puis Bruce McCullough était probablement celui qui était le plus violent, le plus physique, le plus agressif, mais pas nécessairement un punk à la manière qu'on considère qu'il écoutait Crass ou les autres grands bands de cette époque-là, mais plus dans l'idée de mettre le feu à tout, vraiment tout recommencer et tout faire à notre manière. Mais je vais revenir beaucoup plus à la philosophie du groupe. Individuellement, Bruce McCullough, c'est ça, c'est celui qui avait peut-être plus de torque dans la gang. Un qui extrêmement apprécié, c'est Mark McKinney, lui né à Ottawa. Et je vous dis pas ça pour rien, en fait. Vous allez voir en quoi est-ce que la description de chacun des membres établit un drôle de panorama par rapport à la troupe. Mark McKinney, né à Ottawa en 1959, il est le fils d'un diplomate canadien, en fait, Russell McKinney. Donc, il a passé toute sa jeunesse à la fois en voyage, en transition. Il a habité au Trinidad, il a habité à Washington D.C., il a habité à Mexico, il a habité à Paris. Il est revenu au Canada. En fait, la famille s'est installée à Saint-Jean, en Terre-Neuve, en 1980. Et c'est à ce point-là que le voyage de McKinney a arrêté. Fait que si on peut dire que la première 21 années de la vie de Mark McKinney, il l'a fait en transit. Et ça fait en sorte que Mark McKinney a cette espèce de force tragique derrière lui où il doit continuellement se réinventer. C'est définitivement le plus important caméléon de la troupe, peut-être même le plus important caméléon de l'histoire de la comédie canadienne, puisqu'il est capable de afficher un immense éventail de personnages. C'est incroyable qu'est-ce que Mark McKinney est capable de faire et d'effectuer comme transformation à la fois dans son attitude, dans sa personnalité, dans la façon qu'il se présente. Il est un caméléon. Il est assez exceptionnel pour ça. Le dernier membre et non le moindre est Scott Thompson, né lui aussi en 1959 à North Bay en Ontario. Le truc avec Scott Thompson a une vie extrêmement tragique et ça l'a commencé très très tôt puisqu'en 1975, en fait il avait 16 ans, pardonnez-moi, il était à l'école Brampton, qui est une école secondaire ici au Canada, et un des étudiants de l'école, Michael Slobodan, serait rentré à l'école avec deux armes à feu dans un caisse à guitare. Il aurait un 22 semi-automatique et un .44 arme, qu'est-ce qu'on appelle le caliber level action rifle. Il a tué John Slinger. Il a tiré et tué Margaret Wright, qui était le prof d'anglais à la fois de Michael Slobodan et de Scott Thompson. Il a blessé 13 autres étudiants et ensuite il a pris sa vie. C'est la première tuerie, le premier qu'est-ce qu'on appelle mass shooting de l'histoire du Canada, et ça s'est passé pendant que Scott Thompson était à son école. Scott Thompson a aussi survécu au cancer, il a essayé de monter un show, il a fait une ouverture de spectacle à New York, à Broadway, la semaine du 11 septembre. Il a perdu son frère, qui s'est tué, mais je ne suis pas 100% certain, je vais revenir à ça. Il a perdu son frère pendant la production de Brain Candy, dont je vais parler plus tard. C'est vraiment un personnage, aussi le la première figure ouvertement homosexuelle en culture populaire au Québec, à mon avis, qui a joué Buddy, un personnage extrêmement important. Donc, Scott Thompson, qui, lui, arrive beaucoup plus de la dans la troupe de par ses aptitudes de joueur de d'acteur. Un grand, 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 grand acteur. Donc, en voyant la coopération de ces cinq esprits-là, on se met à se poser des questions comme d'où viennent leurs idées. Bon, on sait que les cinq ont des traits, ont des rapports très troubles avec leur père. Ils ont très peu de d'exemples masculins positifs et ça transparaît dans leur humour. On voit aussi que Kids in the Hall est un phénomène extrêmement unique dans l'histoire de la CBC, si on peut dire de la Canadian Broadcast Corporation, puisque c'est considéré par plusieurs le seul objet cool de l'histoire du répertoire de Radio-Canada ou de la CBC. Il n'y a jamais eu vraiment de production jeune et active et contestataire et cool de tout leur catalogue, en fait. Quand la CBC produit quelque chose, c'est parce que c'est rendu un peu plus dans le répertoire des adultes, des adultes vieillissants, en quelque sorte. Kids in the Hall, de par leur support qu'ils ont eu de Lorne Michaels, qui était le producteur et le créateur de Saturday Night Live, qui à l'époque avait vu quelque chose d'extraordinaire chez ces hommes-là, il a dit, ben, il faut qu'on les aide. Ben, c'est là où Kids in the Hall a eu le support financier de la CBC parce qu'il y avait aussi une entreprise américaine qui est intéressée. Puis c'est là où qu'on a eu cette première grande production cool-là. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui est important de savoir par rapport à Kids in the Hall, c'est que leur humour opère d'une façon extrêmement simple et extrêmement philosophiquement encapsulable. Ce qu'ils font, c'est pour les gens qui les comprennent, et les gens qui les comprennent pas, ben ils s'en foutent. Fait que c'est vraiment un truc niche, c'est vraiment un truc de club. Si vous catchez où est-ce qu'on s'en va, on va avoir du fun. Mais si vous comprenez pas, débarquer, ça sert à rien. Et on a une pas une relative indifférence, une indifférence totale envers les gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Donc ici, il y a un no-nonsense. Ici, on a vraiment cette idée-là que Kids in the Hall sont là pour faire ce qu'ils veulent, extrêmement intègre, extrêmement fonceur, mais aussi, comme je vous dis, sans la moindre préoccupation pour des gens qui ne comprendraient pas leurs blagues ou qui ne voudraient pas du tout embarquer dans leurs jokes. Un des bons exemples par rapport à ça, puis bon, si vous êtes encore dans votre votre trip de navigation sur YouTube, vous pouvez aller voir le sketch « Screw You, Taxpayer ». Qui est, à mon avis, un sketch extrêmement important dans l'histoire de l'humour canadien, puisque le sketch commence avec en fait, c'est Mark McKinney, je pense, qui sonne à une porte. Il est là pour ramasser une fille pour une date. Il est 2 ans en retard, donc la fille, elle est morte. Les parents finissent par s'excuser. Il dit qu'il veut prendre sa date quand même, donc il part avec l'urne. Les parents se retrouvent à avoir à s'occuper de Kevin McDonald, qui est en couche, puis qui est en train de lancer son bol de lait partout. Et tout d'un coup, il y a comme une coupure. Et Mark McKinney, si je me rappelle bien, c'est lui qui fait le monologue. Ou c'est peut-être Bruce McCullough, je ne suis pas certain. Se présente et dit, excusez, ce sketch est extrêmement mauvais, mais c'est un peu de votre faute et on aimerait vous remercier, puisque ce sketch-là vous appartient en partie. Et là, il explique tout le modèle de financement de la CBC. Il dit que parce que la CBC est financée par les impôts, par les taxes prélevées par le gouvernement canadien, ben, tous les citoyens canadiens sont un peu propriétaires de ce sketch-là. Et donc, ça ne vaut pas vraiment la peine d'envoyer une lettre de plainte, puisque la structure fait en sorte que tout le monde ici a participé à la création de ce sketch-là. Et c'est pour ça que le sketch s'appelle « Screw you, taxpayer, va te faire foutre, payeur de taxes ». Et la foule se met à scander « Screw you, taxpayer ». Et le sketch se termine sur une minute où on refait le budget du sketch, tout en gardant en tête que le sketch est extrêmement mauvais initialement. Mais on dit « Ah, l'urne, par exemple, combien qu'elle a coûté ». Toi, c'est quoi ton cachet pour ce sketch-là? Et on revient toujours à « va te faire foutre, payeur de taxes ». Donc, il y a quelque chose d'extrêmement subversif, extrêmement toxique dans la façon qu'il faisait de l'humour, mais qui était très importante pour l'époque. Mi-90, on s'en rappelle, c'est l'émergence du grunge. Début 90 à mi-90, c'est l'émergence du grunge. C'est l'émergence d'un nihilisme dans la jeunesse, mais un nihilisme très progressif et un nihilisme très individualiste, si on peut dire. J'ai vu dans mes recherches que Kurt Cobain est un grand fan de Kids in the Hall et qu'il y a eu un moment où, en fait, ils se sont croisés dans un spectacle à Toronto et Kurt Cobain les a invités backstage pour être capable de parler, de discuter, en fait, pour échanger. Puis c'est là où je vois qu'il y a comme une grande filiation dans l'idéologie entre Kids in the Hall et qu'est-ce que Nirvana faisait. Bon, les destins sont tragiques des deux côtés, mais pas pour la même raison. On va revenir... pas immédiatement. Là où ce que je disais, parce qu'en fait, il y a comme une chanson que j'ai vraiment le goût de faire écouter. Un des trucs, en quoi est-ce que je vous disais qu'il y a comme une espèce de contestation d'indifférence dans la méthode, mais aussi très progressiste, c'est par exemple dans l'usage ou dans la représentation des genres dans Kids in the Hall. Kids in the Hall n'avait que très peu de collaboratrices. Je pense qu'il y en avait comme deux dans toute leur histoire. Mais ça faisait pas en sorte que les femmes étaient peu représentées dans leur sketch, puisque les cinq hommes jouaient toujours les femmes. Et il y a des très bons et des importants rôles féminins dans les sketchs de Kids in the Hall, puisque le travestisme qui était mis en scène par la troupe n'était jamais humoristique. Le fait qu'ils portaient des robes et le fait qu'ils portaient des perruques et du maquillage n'était pas le gag. Lorsqu'ils se travestissaient pour jouer un rôle féminin, il y avait des blagues. C'était pas fait pour la blague que ces gars-là étaient en robe. Puis je trouve qu'il y a une grande sensibilité là, dans le fait que on était, avec l'homosexualité de Scott Thompson, aussi l'idée qu'on abordait beaucoup, beaucoup de thématiques, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, on les abordait de front, mais aussi même dans la représentation genrée que un homme déguisé en femme n'est pas une blague. Un homme déguisé en femme est une béquille pour un manque de casting, puis on va faire avec ce qu'on a. Puis ça faisait aussi en sorte que ces cinq gars-là devaient travailler le spectre de la féminitude dans leur personnage. Puis c'est très, très, très intéressant parce que c'était très positif comme représentation et à mon avis, ça a probablement ouvert la porte à la curiosité envers le cross-dressing chez plusieurs hommes au Canada. L'idée que la robe n'est pas nécessairement un objet qui connote une féminité. Non, elle connote la possibilité d'être capable d'explorer une féminité en soi. Puis je la mets un peu en opposition avec I'm a Lumberjack and That's Okay de Monty Python, où le Lumberjack sort et met une robe, puis tout est correct. Puis ça fonctionne pas en opposition, mais en parallèle. Ça fonctionne essentiellement de la même manière avec Kids in the Hall. Mais bon, en même temps, je voudrais pas nécessairement trop les comparer, puisqu'il y a des endroits où ça fonctionne pas complètement. Je prends une petite pause, parce que je veux vous faire, comme je vous disais, j'ai vraiment, vraiment le goût de vous faire entendre Dave's I Know. Fait qu'on va aller écouter The Dave's I Know de Kids in the Hall, et je reviens avec la seconde partie de l'émission, qui est beaucoup plus sur Brain Candy, maintenant qu'on a fait cette large introduction.
Hi, I'm Bruce McCullough. I'd like to tell you about The Dave's I Know.
These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. David Hoffner, he works in my dad's store. He's worked here for 12 years, he'll probably work here for more. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. Dave Gord, I've known since I was 6. In grade, he broke his leg, so we got drunk and sick. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. Some of them are Davids,
but most of us are Daves.
They all have their own hands, but they come from different moms. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. Dave Jadisky, man, this cat can swing. He weighs almost 50 pounds and he delivers my paper on time. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. These are the Daves I know, I know. These are the Daves I know. Dave Capisano, I hardly know him.
These are the days I know, I know. These are the days I know. These are the days I know, I know. These are the days I know.
We are the days he knows, he knows. We are the days he knows. We are the days he knows, he knows. We are the days he knows. Some of us are days,
but most of us are days.
We all have our own hands, but we come from different moms.
These are the days I know, I know.
We are the days he knows, he knows.
These are the days.
Bonne chance tout le monde, vous allez avoir cette chanson prise en attente pour la prochaine semaine. Donc, vous écoutez toujours le 7e Antiquaire, votre émission du cinéma. Aux proportions cosmiques sur les ondes de choc.ca. Un dernier truc avant de partir en publicité que j'ai oublié de mentionner, c'est les parallèles que je vois entre Kitten Hall et Charlie Brooker. Charlie Brooker qui est créateur, qui est beaucoup plus reconnu comme étant créateur de Black Mirror, mais qui a longtemps travaillé en télévision en Angleterre. Il a fait des téléséries comme Brass Eye, The 11 O'Clock Show et Nathan Barley. Nathan Barley est assez difficile d'accès, là. Je n'ai pas tout à fait terminé cette télésérie-là. Mais il a aussi travaillé sur Dead Set, qui était le film de la télésérie de zombies qui se passait pendant un tournage de télé-réalité un peu à la type Big Brother, qui est vraiment, vraiment intéressante. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre Charlie Brooker et Kitten Hall. En quoi est-ce que des trucs comme Brass Eye avaient une charge contestataire extrêmement forte, extrêmement dérangeante, puis très, très, très nocive, je dirais. Les gens ont énormément... Il y a eu une réaction très, très violente à Brass Eye puis à 11 O'Clock Show. Et en continuant, en progressant, Brooker s'est retrouvé de plus en plus à faire dans la dystopie humoristique jusqu'à se rendre à Black Mirror actuellement. Ben, la dystopie humoristique, à mon avis, c'est un genre qui n'a pas énormément de films à leur actif. En fait, on ne peut pas vraiment tant en reconnaître que ça. Mais que j'ai un peu pas le choix d'admettre que Brain Candy est un des grands précurseurs ou une des œuvres importantes dans le panthéon de la dystopie humoristique. Parce que, bon, on a un film de 1996 qui prédate, en fait, plusieurs trucs et qui place les bases un peu pour ce genre de cinéma qui est supposé être une comédie, mais qui est une si grande déclaration, dénonciation du climat dans lequel on existe, qu'il est pratiquement impossible de le voir comme un film drôle. En fait, Roger Ebert a, de manière très célèbre, annoncé qu'il n'a pas ri une seule fois pendant le film. Et je le comprends. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif à dire à propos de Brain Candy. C'est pas un film drôle. C'est un film très, très lourd à écouter. C'est un peu à la même manière de Idiocracy de Mike Judge. C'est des films qui soulignent quelque chose de tellement nocif qu'on n'a pas le choix de les prendre au sérieux. Et donc, ça devient un peu compliqué d'y rire. Donc, Brain Candy, rapidement, le titre initial, c'était The Drug. La grande description autour de ce film-là, c'est un journaliste de A.V. Club qui l'a mentionné. C'est A Wounded Beast of a Movie. Donc, un film comme une créature blessée. C'est un film qui part un peu dans le négatif. Comme je vous dis, déjà, une adaptation en long-métrage pour Kitten Hall, qui font beaucoup plus dans le sketch, c'est déjà compliqué. Mais en plus, à vouloir faire quelque chose d'aussi important, à mon avis, mais contestataire et difficile à prendre, ben ils se sont un peu embarqués dans une mission dès leur premier long-métrage qui n'a pas facilité leur parcours à Hollywood, si on peut dire. Rapidement, le synopsis, c'est Dr. Chris Cooper, qui est joué par Kevin MacDonald, va rencontrer un mogul de la pharmaceutique, en fait, parce qu'il est en train de développer une nouvelle drogue dans le Depression Project. Le personnage de Chris Cooper va rencontrer Don Roritar, qui est joué par Mark McKinney. Don Roritar est un important mogul de la pharmaceutique. Et Chris Cooper lui présente une drogue qui est le remède ultime à la dépression. En fait, cette drogue-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle cerne le moment le plus heureux de ton existence et elle la fait jouer en loop dans ton cerveau. Donc, Chris Cooper, ça, je vais toujours me faire pogner parce que d'un bord, soit que tu es en train de parler du créateur d'X-Files, de l'autre bord, soit que tu es en train de parler du gars dans Adaptation, fait que je pourrais jamais vraiment m'en sortir, mais Chris Cooper le personnage de Kevin McDonald deviendra une méga vedette de la pharmaceutique, mais verra la civilisation s'écrouler dans cette espèce de donanisme c'est ininterrompu où les gens, au final, verront la manifestation des effets secondaires de cette pilule-là qui les plonge dans une espèce de coma où ils sont dans cette boucle de feedback ininterrompu par rapport à leur plaisir ultime. Pis ça, c'est là où, bon, évidemment, ça devient vraiment une grande, grande, grande dystopie. Mais c'est drôle, tu vois, il y a plein de petits indices. Pis c'est un film qui est brillamment exécuté parce que on insère dans le film plusieurs des personnages de la télésérie, les 5 saisons qui ont été faits par la CBC et par HBO en commun. Mais on décide aussi de travailler sur cette méga diégèse-là, cet univers où l'on veut se débarrasser de la dépression. Il y a une scène, une des scènes très, très importantes dans le film, c'est lors de la rencontre avec les execs de la pharmacie, de la compagnie pharmaceutique, le Ruritori, pardonnez-moi, c'est assez difficile à dire, et on a Kevin McDonald qui est devant Mark McKinney qui joue Ruritori, lui dit « Est-ce que la drogue est prête? » Et ça, c'est encore dans les grands, grands, grands détails. Chris Cooper se rappelle de la ride d'ascenseur qu'il a pris pour se rendre à cette réunion-là. Et dans la ride d'ascenseur, il y avait la pièce « Butts Wiggling » de Tragically Hip qui jouait en sourdine derrière. Et pendant qu'il est en train de monter dans l'ascenseur, il y a cette phrase qui est dite dans la chanson « Tragically Hip »« In my opinion, the drug is ready ». Donc, en n'ayant aucune réponse à cette question-là, puisque Chris Cooper n'a pas fait tous les tests laboratoires pour voir si la drogue était correcte, il ne fait que répéter une phrase du patrimoine de la musique canadienne, soit une chanson de The Hip, évidemment, et dit « The drug is ready », la drogue part en marché et il y aura ses grandes conséquences sur la société canadienne et sur la société globale. De manière très brève, le synopsis, c'est ce que je peux vous offrir par rapport au film, mais vous voyez que c'est une immense critique de l'industrie pharmacologique qui, à cette époque-là, je vous rappelle, commençait à sortir ses designer drugs à la pelletée. C'est les années qui ont vu apparaître le Viagra, qui s'occupait des dysfonctions érectiles, Rogaine, qui s'occupait de la pousse de cheveux masculine, le Propecia aussi, si je me rappelle bien, mais les drogues beaucoup plus sur la dépression, qui s'attaquaient beaucoup plus aux troubles de dépression et les troubles mentaux, le Prozac, le Paxil et le Zoloft. Puis c'est là où ce qu'on avait vraiment, on vivait dans ce climat-là, en fait, ce climat-là qu'on a fini par succinctement décrire comme « better living through chemistry », donc la meilleure vie à travers la chimie. Mais on avait ce sentiment-là aussi par rapport à toutes les formes de technologie. La technologie à cette époque-là, vers les années 90, la transition des années 90 aux années 2000, la technologie était une voie de révolution par rapport à notre existence et serait le remède à tous nos maux. Et Brain Candy, c'est vraiment une attaque sur ça. C'est une attaque extrêmement virulente sur l'idée que la technologie est la chose qui va nous sauver puis qu'on devrait faire ces drogues designer extrêmement cool parce qu'il y a un point où Chris Cooper devient une méga vedette, il va présenter des statuettes comme les Oscars et tout le monde est en pamoison devant un chimiste parce que c'est le grand, grand, grand chimiste qui a réussi à sortir tout le monde de la dépression. C'est une grande critique à la fois de cette vocation-là de vouloir sortir de la dépression. Parce que dans le film, on se rend compte que c'est une quête un peu vaine, parce que la dépression est une part fondamentale de l'existence. Les idées noires, les complications, les troubles, l'isolation, ça fait partie de la vie. Puis une pilule ne peut pas... une pilule pourrait nous sortir de ça, mais ça finirait par amoindrir l'existence humaine. L'autre grande critique, évidemment, c'est celle du corporatisme. Encore, les années 90, un grand moment post-Wall Street d'Oliver Stone où le corporatisme est extrêmement pointé du doigt. Le Ruritori est un peu une reprise, à mon avis, là, je le sens un peu de cette manière-là. Dans la télésérie de Kids in the Hall, on avait une compagnie qui s'appelait le AT and Love, qui est une instance capitaliste omniprésente, mais qui n'existe que pour exister. Il y a des personnages qui travaillent pour AT and Love. Etienne Love est mentionné, est toujours en filigrane dans le background, mais on ne sait pas à quoi qu'elle sert, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle produit. Puis finalement, on se dit que c'est juste une corporation, à la manière très kafkaïenne, tirée directement des pages de Kafka, une bête qui s'auto-alimente et qui fonctionne pour fonctionner. Donc, il y a quelque chose de très, encore, dystopique, très limite cyberpunk, si on pourrait vraiment éloigner tout ce qu'il y a de cool dans le cyberpunk, puis juste y aller dans l'espèce de danger de la pharmacologie de la corporation, qui est déposé en filigrane dans Brain Candy. On se rend compte que ces précurseurs de l'humour dystopique avaient mis le doigt sur quelque chose, avaient mis le doigt sur l'hypermédicamentation qu'on vit actuellement, pour le meilleur et pour le pire. Là, je voudrais vraiment pas insérer un commentaire par rapport à la médication ici dans l'émission, parce que c'est, ça n'a pas sa place, on parle de culture. Mais on a cette grande critique. Puis il y a un truc qui était très intéressant dans le livre par rapport à Kitson Hall, où suite à une entrevue, il y a des membres, je ne pourrais pas exactement citer lequel, qui dit on aurait peut-être dû plus se fier au playbook de Monty Python pour Brain Candy, puisque Monty Python, quand ils ont fait leur premier long-métrage, Life of Brian, ben ils l'ont fait en partant, ou Holy Grail, là, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire lequel, je pense que c'est Holy Grail qui arrive en premier, ils ont commencé en prenant une histoire archétypale sur laquelle ils pouvaient continuellement retomber. Il n'y avait pas nécessairement de surprise pour les gens qui écoutaient le film. Et de plus, on ne demandait pas au public de comprendre une autre histoire. Mais dans Brain Candy, il y a une grande histoire très inquiétante, très déprimante qui se déploie tout au long de la diégèse, qui fait en sorte que, à la fois, tu ne peux pas apprécier Kids in Hall comme tu les as appréciés à l'époque, que c'était une troupe de sketch, mais tu peux pas non plus apprécier le film parce que le film fait un constat tellement dark que t'es un peu comme pris entre les deux, ce qui est une situation extrêmement inconfortable. Puis inconfortable sur tous les aspects, parce que, comme je vous disais, le personnage de Don, Rory Torrey, qui est interprété par Mark McKinney le jouait pour qu'il soit le plus antipathique possible. Et la manière la plus facile qu'il a trouvé pour qu'il soit antipathique, c'est de le jouer comme Lorne Michaels, qui est le producteur. Puis Lorne Michaels, on le sait, a été l'inspiration d'un autre grand personnage à culture populaire, soit Dr. Evil dans la série des Austin Powers. Fait que cette idée d'un despote corporatiste extrêmement éloigné, très distant de ses sujets, au long, tu sais, vraiment loin, à la table du comité du CA ou de la comité d'administration, est vraiment inquiétante. C'est une performance très dure à prendre parce qu'il y a chez Mark McKinney quelque chose de très attachant, mais dans la figure de Rory Thor, à la fois avec l'idée, comme je vous dis, anticorporatiste, l'inquiétante corporation, mais aussi l'idée qu'on peut tous mieux vivre si on se conforme avec la chimie, ben c'était pas drôle, fondamentalement. C'était juste pas drôle parce que ça devenait très, très, très anxiogène, mais ça prenait tout ce qu'il y avait de moins charismatique par rapport à Mark McKinney. Fait que normalement, tu l'aimes, mais là, tu l'aimes pas pantoute. Puis en même temps, comme je vous disais, le projet du Brain Candy, ça provient du Depression Project, qui est comme, au final, qui devient un grand commentaire sur la création de l'humour, en fait, qu'on sait qu'il y a toujours une part tragique chez les personnes qui font de l'humour et chez plein d'autres gens, là, comme Seinfeld l'a dit, tu sais, que c'est juste qu'en humour, on va plus se concentrer sur le centre tragique des individus. Mais le Depression Project est aussi une force qu'il y a en dessous de la création. Et une force qu'il y a dans la création de l'humour, parce que bon, on le sait, l'écriture de ce long métrage-là était extrêmement complexe. On partait essentiellement d'une dynamique où les cinq Kids in the Hall, quand ils faisaient leur télésérie, allaient toutes dans des directions différentes, montaient leurs sketchs un l'autre, les présentaient, on passait à approbation ou non, et ensuite on filmait. Mais là, les cinq devaient se retrouver en pièces ensemble et bâtir et travailler sur le même projet. Ça a fait qu'il y a eu énormément de friction. Ça a fait aussi notamment, par exemple, Dave Foley, qui était déjà en train de travailler sur News Radio à ce moment-là, s'est fait éjecter ou s'est auto-éjecté de la salle du Writer's Room, n'a pas de crédit de scénarisation, malgré qu'on sait qu'il a quand même participé. Il y a des tensions qui ont commencé à émerger lors de la création de Brain Candy, qui ont fait en sorte qu'une fois que Brain Candy est sorti, ben la troupe s'est dissoute. Puis là, je vous fais pas de spoilers, ça s'est vraiment désintégré assez raide, assez difficilement. Et tout ça parce que, là ici ça devient un peu le fou la poule, on ne sait pas qu'est-ce qui a causé quoi que ce soit, c'est ça qui, c'est les circonstances, c'est la thématique qui ont précipité la chute, mais l'idée de vouloir aborder la dépression, l'importance de la dépression, l'aspect fondamental de la dépression, mais tout en étant déprimé fondamentalement, parce que les cinq ont admis être en burn-out à ce moment-là, même que quand la production a commencé, Dave Foley est en instance de divorce. Je crois que la femme de Kevin MacDonald l'avait déjà quitté. Un de ses parents de Kevin MacDonald est décédé et le frère de Scott Thompson s'est tué. Donc, trois des membres étaient déjà dans des situations extrêmement fragilisantes. Dave Foley, on le sait, si vous écoutez des entrevues avec lui présentement, il est extrêmement amer, non pas nécessairement autour de ce film-là en particulier, mais le divorce a été très, très difficile sur lui. Ça fait en sorte qu'il se retrouve à être traité de désagréable par Marc Maron lui-même, qui est un peu considéré comme le roi désagréable parmi tous. Mais ce climat-là, cette idée-là d'être en dépression pendant qu'on parle de la dépression, d'être en burn-out pendant qu'on est en train de provoquer un burn-out, parce qu'il y a un autre aspect du film qui est important à savoir, c'est qu'il y a 32 rôles qui sont partagés entre 5 acteurs. Mark McKinney joue 9 rôles, Scott Thompson en joue 8, Bruce McCullough en joue 7, Kevin MacDonald en joue 4, puisqu'il joue le personnage principal, et Dave Foley en joue 4, parce qu'il est en train de tourner nos vidéos aussi en même temps. Fait que 32 rôles qui sont exécutés par seulement 5 humains, ça prend énormément d'énergie pour être capable de tenir ça. Et ça fait qu'il y a des trucs extrêmement dark qui sortent de ce film-là. C'est une comédie noire, dans la définition la plus universelle de la comédie noire. Il y a des scènes où l'on traite le personnage de Chris Cooper comme une méga vedette et qu'il y a des gens qui lui demandent de signer les lacérations sur leur poignet, puisque la pilule, le brain candy, a fait en sorte qu'ils se sont sortis de leur dépression et qu'ils sont tellement heureux maintenant que c'est l'os qui va se faire signer. Honnêtement, faire signer ces cicatrices de tentative de suicide, c'est l'affaire la plus dark que je peux imaginer. Puis bon, je veux pas vous révéler un gros punch, je pense que Julien Bernatchez en aurait parlé aussi, ça a été un flop immense, il a fait quelque chose comme 2 millions de dollars sur un budget de 7 millions. Il y a vraiment une grande dépression dans ce film-là. Mais ça fait aussi que, à mon avis, c'est un film d'une grande réussite. Et là, autant que j'ai tout utilisé pour vous contextualiser Brain Candy, je trouve que c'est très important de garder en tête que si vous ne savez rien de ce que je viens de dire, Brain Candy est probablement un film beaucoup plus rescapable, beaucoup plus sauvable de ses conditions. Un autre des trucs qui est arrivé, par exemple, c'est qu'il y a un personnage interprété par Bruce McCullough qui s'appelle Cancer Boy. Et Cancer Boy est un jeune garçon en phase terminale, chauve, chaise roulante, casquette, qui encore a une interaction avec Chris Cooper. Non pas parce que lui, il prend la drogue, mais parce que ses parents prennent la drogue pour qu'ils soient capables de gérer avec le fait qu'ils vont perdre leur fils. Encore extrêmement lourd. Ben, Cancer Boy a été tellement critiqué par les producteurs et les Kids in the Hall ont tellement tenu leur bout sur leur idée que Cancer Boy apparaît quand même dans le film. Mais le studio a décidé de couper tout budget publicitaire à cause de ça. Et c'est un peu pour cette raison-là que le film, c'est un des facteurs qui fait en sorte que le film n'a pas été vu à cette époque-là. Aussi par le fait que Dave Foley était supposé jouer le rôle principal, puis Dave Foley est beaucoup plus habitué à être un leading man que Kevin MacDonald. Mais encore, si ça vous intéresse d'aller explorer ça, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que Brain Candy n'a pas été un succès. Mais beaucoup à la fois dans le film, beaucoup dans le climat du film, beaucoup dans le climat de l'époque. En fait, c'est aussi autour de ces années-là que Kurt Cobain s'est suicidé, que cette vague de dépression a cessé d'être ignorable, si je peux vous dire. Ça a vraiment été un grand, grand raz-de-marée qui a submergé tout le monde. Puis d'essayer de faire une comédie dans ce contexte-là, c'est très compliqué. Maintenant, plusieurs années, presque 30 ans plus tard, ça vaut la peine d'aller revoir ce film-là. 20 ans plus tard, pardon. D'aller revoir ce film-là et de évincer le contexte, puis de voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui en survit, si on peut dire. Parce que il y a un testament d'une époque et il y a aussi une originalité fulgurante dans Brain Candy que l'on ne peut pas reproduire. C'est un échec sur pattes, mais c'est un film qui restera nécessairement culte. Un des derniers trucs que je trouve qui est vraiment difficile à prendre par rapport à par rapport au contexte de production autour du film, c'est Kevin McDonald qui a déclaré vers les alentours de 2014, The AV Club a fait une grande série d'entrevues avec les gens de Kitchen Hall pour revenir sur leur carrière aussi sur Brain Candy. Kevin McDonald a expliqué et prend énormément du blâme il prend le blâme du non-fonctionnement du film. Puis c'est quelque chose qui déchire le cœur, en quelque sorte. C'est que à l'époque qu'il est en train de faire le film, comme je vous disais, Dave Foley est en train de vivre des trucs assez compliqués par rapport à son divorce. Et Kevin McDonald, qui est son meilleur ami, comme je vous rappelle, hein, il se connaissait depuis 1982, il avait fondé Kids in the Hall ensemble. Kevin McDonald a été informé par le gérant de Dave Foley de ne pas parler des problèmes que Dave Foley est en train de vivre pendant le tournage, pour ne pas contaminer le film, si on peut dire. Et Kevin l'a pris au sérieux. Donc, tout au long du film, il n'a pas interagi avec son meilleur ami dans le plan humain. Il n'a que fait les trucs professionnels. Et c'était des très, très grands amis. Donc, ça dénaturait entièrement leur relation. Puis Kevin McDonald le prend sur lui-même en disant « J'ai pas été un ami pour Dave quand il était dans son pire moment. » Et tout ça pour un film. Donc, le film en a écopé et l'échec du film est un peu de ma faute. Ça, comme je vous dirais, c'est comme le clou dans le cercueil de Brain Candy qui fait en sorte que je ne peux plus départager le contexte, mais en même temps, je trouve que le contexte élève le film de manière assez inspirante. Donc, je vous encourage énormément à aller voir le film. Je vous encourage aussi à aller regarder la fin alternative. Il y a une fin alternative qui existe sur YouTube, mais elle est pas post-produite, elle est même surexposée. À la fin du film, on a décidé de donner une espèce de porte d'ouverture assez standard. Là. Vous pouvez un peu l'imaginer, là, mais je ne cacherai pas la surprise, allez voir. Mais la fin alternative, c'est le personnage de Kevin McDonald, Cooper, qui se fera kidnapper par une faction radicale qui, eux autres, contestent cette épidémie d'antidépresseurs et décident de le prendre pour qu'il fasse une déclaration publique sur les méfaits de sa drogue, chose qu'il fait ouvertement. Et il dit à tout le monde que c'est une très, très, très mauvaise idée, allant jusqu'à... c'était tellement une mauvaise idée et il se sentira tellement coupable de l'avoir fait qu'il prend la drogue lui-même et se propulse lui-même dans un coma dans lequel il a créé une drogue qu'il croit qu'il va avoir sauvé les gens. Et donc, qui arrive au moment, il vient reproduire le moment où il pense qu'il a fait du bien et pas du mal. Il vivra dans ce coma pour le restant de ses jours. C'est hyper tragique. Ça m'a aussi fait penser à Action Mutante de Alex de la Iglesia, un film de 1993, où l'on revendique notre droit à la laideur. Donc, c'est ça que je vous dis, c'est que je pense qu'au final, Brain Candy devient un film extrêmement abîmé, a wounded beast of a movie, comme je vous ai mentionné tantôt, mais un film très important et très... un artefact d'une époque. Un artefact d'une époque très complexe que ça vaut la peine de regarder à notre époque. Une époque où on a une compréhension peut-être un peu plus raffinée de l'importance de la dépression, de l'importance de la... Et non pas que ce soit une étape ou un trouble qui est difficile à surmonter, et non pas que ce soit quelque chose que la dépression, je la souhaite à personne, mais elle fait partie de l'expérience humaine. Et de vouloir conformer l'humanité en se débarrassant de ces trucs-là, en se débarrassant de ces aspects-là de l'existence humaine, c'est de dénaturer l'existence. Puis c'est le point final de Brain Candy. Puis c'est aussi ce qui fait que Brain Candy est capable de se permettre de dire des trucs comme ça qu'on n'entend pas beaucoup dans le cinéma en général. Fait que l'anxiété, la dépression, avoir le cœur brisé, c'est à la manière d'un peu qu'est-ce que Werner Herzog disait, c'est la violence et tout ça, c'est le fondamental de l'humain. La joie et la surprise, c'est ponctué. C'est quelques petits événements qu'on est capable de vivre, mais que fondamentalement, nous devons vivre dans cette noirceur-là. C'est tout ce que je voulais dire cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission-là sur Brain Candy, malgré qu'elle était un peu déprimante. Merci d'avoir parcouru la carrière de Kids in the Hall avec ce Screw You Hollywood Movie Studio Film. On termine avec une reprise d'une pièce qui existe dans Brain Candy, pièce qui s'appelle Some Days It's Dark, jouée par Bruce McCullough, mais reprise ici par Tool. Passez une excellente semaine, bonne écoute tout le monde, je vous aime énormément.
Most days it's dark.